Donc bah, bienvenue sur le cours de L6 KGL, et ce soir nous voyons le chapitre 6 consacré aux transistors. Donc petit rappel d'histoire, parce que comme vous savez j'aime bien l'histoire. Là je vous ai mis une feuille où il y a plein de... Donc je vais faire un petit zoom. Déjà commencer par expliquer tout ça, après on va voir toutes les photos. Petit rappel d'histoire. Donc, les travaux, déjà en termes de recherche fondamentale. Recherche fondamentale sur les semi-conducteurs, c'est donc Walter Schottky en 1927. Schottky, il n'a fait aucun matériau en lui-même. Il les a juste, imaginés sur le papier. Et donc la véritable première diode PN, elle est mise au point dans les laboratoires Bell. Encore une fois, les laboratoires Bell. Les laboratoires Bell ont mis au point des tas de choses autour de l'électronique en règle générale. Et notamment donc la diode, et donc celui qui était à l'époque... du département diode, c'était Russell Hall, qui a mis au point la première diode en 1939. Voilà. C'était une grosse diode, hein. Inutile de vous dire, c'était pas encore une méthode industrielle et des petits composants comme on voit maintenant. Et puis plus tard, 1947, donc faut attendre, entre les deux, il y a quand même eu la guerre, donc ça a dû calmer aussi pas mal les recherches. Au moins, il y avait tout autre chose à chercher que là-dedans. Et donc, on a ensuite, en 1947, une équipe de chercheurs. Donc, ce sont les trois qui sont là, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, Bardeen, Shockley et Brattain, qui mettent au point le transistor. Voici ici le premier transistor. On va revenir dessus après, quand je vais faire un petit zoom. Et donc, encore une fois, ce sont les laboratoires Bell, 1947. Et donc, pour... cette mise au point, cette découverte, ces trois ingénieurs là reçoivent en 1956 le prix Nobel de physique. Juste un tout petit peu avant, 1954 et 55, c'est entre les deux, on a deux fabricants de radios, donc un aux États-Unis qui s'appelle Regency et un au Japon qui s'appelle Sony. Sony a été créé à ce moment-là, n'existait pas avant. Et donc ils commercialisent les premiers récepteurs AM. Alors en l'occurrence c'était petites ondes, parce que comme c'était un modèle pour les États-Unis et pour le Japon, c'était petites ondes. Aux États-Unis et au Japon, il n'y a pas des grandes ondes comme en Europe, donc c'était petites ondes. Donc voilà, ici le TR1, donc ça c'est Regency. Et le TR-55, ça c'est Sony. Et donc, voilà, si jamais vous trouvez ça dans des brocantes radio et qui marche, surtout vous l'achetez. Faut qu'ils soient en bon état, hein, quand même. Parce que ça va, pour le moment, ça coûte assez cher et je pense que ça va encore augmenter. Hein, ces premiers récepteurs. Parce qu'en fait, auparavant, les récepteurs, c'était des à tubes, et donc c'était pas facilement transportable dans la poche. D'accord ? Là, on arrive à avoir des tailles. C'est quelque chose qu'on peut amener, et en plus, comme ça marche sur pile, ben, on peut l'amener en promenade. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est 54-55, donc assez peu de temps après, finalement, cette découverte, puisque il faut attendre quand même un petit peu, enfin, quelques années avant que ça devienne industriel. Et donc ça s'est fait très rapidement, donc de 47 à 54, hein, 7 ans. C'est très court pour développer un produit industriel à partir d'une recherche fondamentale. En 55, encore une fois les laboratoires Bell, qui font que des trucs, construisent le TRADIC, donc le Transistor Digital Computer. Donc c'est le premier ordinateur transistorisé. Donc, alors en revanche, il avait un problème quand même, c'était sa mémoire. Et donc la mémoire, c'était pas top. Et donc l'année d'après, 1956, IBM, donc une nouvelle boîte, commercialise le RAMAC 305. Et donc le RAMAC 305, c'est le premier ordinateur transistorisé, 5 mais surtout avec disque dur. Et donc les disques durs sont arrivés en 1956. Auparavant, c'était des bandes magnétiques. Et donc là, on arrive avec cet ordinateur avec le disque dur. Et il y avait comme ça de mémoire, il y avait une, parce que là c'est 100 kilooctets hein, qu'il y a sur un disque comme ça, et le tout faisait 5 mégas. Donc il y avait 50 disques comme ça dans une armoire qui permettait d'avoir de faire marcher la machine. Alors que dans le TRADIC, c'était une bande magnétique, donc le temps d'accès de la bande magnétique n'a rien à voir, puisqu'il faut retrouver l'endroit où il y a les datas sur la bande magnétique pour que ça puisse marcher. Alors que là, on a un accès direct avec un disque dur. Voilà, je vais vous passer les photos quand même, parce que là, elles sont peut-être un peu petites. Alors, hop. Je vais vous passer déjà le premier. Alors, le transistor, ça c'est le transistor du labo. Et quand on regarde ici ce transistor, en fait, ici ça c'est la base, et vous avez ici l'émetteur et ici le collecteur. Donc le schéma ici qui a été utilisé pour le transistor, c'est finalement issu de ce bricolo qui avait été utilisé pour créer ce premier transistor. Hein, c'est quand même assez drôle. Là donc c'est mes trois ingénieurs qui ont mis au point, on va dire, le transistor. Mes deux, donc le Regency et le Sony. Vous voyez, il n'y a qu'une seule bande, hein, Et là, c'est les... Alors, je ne sais même pas ce qu'il indique, là, d'ailleurs. Je ne sais même pas ce qui est indiqué, si c'est la fréquence. Je pense que c'est la fréquence qui est indiquée. Voilà, et ici, c'est pareil, donc on tourne le condensateur, là. Donc ça fait un 180 degrés, un demi-tour pour faire tourner le condensateur. Mon RAMAC 305, donc on voit ici le disque dur, et ici l'empilement ici des 50 disques durs. Voilà, ça c'est pour quand même... C'est assez impressionnant. Quand on voit l'évolution du système. Alors, j'en étais là. Donc on en arrive maintenant à la partie court réellement, après avoir vu la partie... histoire. Donc je vous présenterai les transistors juste après. Déjà dans un premier temps, je vous présente la manière dont ça fonctionne finalement. Donc un transistor, c'est composé de deux jonctions PN, donc deux diodes qui sont montées tête bêche. Et donc, on a du coup deux possibilités, soit je fais des NPN, ou je fais des PNP. Et donc, ici, on a un système, alors c'est pour simplifier hein, que c'est écrit comme ça, mais on reconnaît les transistors en disant soit c'est un NPN, soit c'est un PNP, selon ici... l'ordre ici des, du cristal qui est dopé P ou N. Hein. Pour revenir ce que c'est qu'un P ou un N, il faudra revenir sur le cours de la semaine dernière, qu'on ne va pas refaire, parce que sinon on ne va jamais avancer. Donc ici, premier élément, ça s'appelle l'émetteur, puis après la base, puis après le collecteur. Donc la base, c'est toujours quelque chose qui est très fin ici. C'est un morceau de cristal qui est très fin. Et de chaque côté, donc, on a l'émetteur et le collecteur. Sur le schéma, l'émetteur se repère toujours avec la flèche. C'est là-dessus qu'il y a la flèche. La base, bah, c'est la base. Et le collecteur, bah, il n'y a rien dessus. Et, alors ça, on va voir ça tout à l'heure quand on va se regarder les vrais composants, c'est que le collecteur, il est sous, enfin, quand on a un boîtier métallique, c'est la patte qui est reliée à ce boîtier métallique. Les deux autres, elles sont décalées, et donc c'est comme ça qu'on les repère. On regardera ça tout à l'heure. Comment se souvenir du sens du transistor? Parce que c'est le sens ici de la flèche qui va déterminer la valeur de mon transistor. Rappelez-vous, le courant dans une diode, ça passe dans le sens PN. Ici, donc, ici dans mon transistor, ça indique que mon courant va passer de base vers émetteur. Et donc ici, je vais être P, ma base va être P, et mon émetteur, N. Donc je vais être ici avec un NPN. D'accord ? Si ma flèche était dans l'autre sens, ça me donnerait donc un PNP. Et donc cette sens de la flèche, la méthode mnémotechnique, c'est lorsque la flèche ici ne pénètre pas, puisqu'elle sort, c'est un NPN, ne pénètre pas. Et quand elle est dans l'autre sens, donc quand elle va vers la base, elle pénètre, donc c'est un PNP. Voilà, donc c'est comme ça qu'on repère intellectuellement les NPN et les PNP. Et la différence entre un NPN et un PNP, vous pouvez se dire, ben, c'est le même, mais sauf qu'il va marcher complètement à l'inverse. Alors, en règle générale, ce que l'on a, ce sont... Alors, je n'ai jamais compris pourquoi, mais je pense que c'est une histoire de fabrication. C'est que on a plus souvent des NPN que des PNP. Et en plus, il se trouve que les NPN coûtent moins cher que les PNP. Donc, est-ce qu'il y en a, comme c'est fabriqué en plus grand nombre, est-ce que c'est pour ça qu'il y a des économies d'échelle et que c'est moins cher? Ou est-ce que c'est plus compliqué à faire un PNP qu'un NPN et c'est pour ça que les NPN sont moins chers? J'ai jamais réussi à débrouiller le truc. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de NPN et que la plupart des montages, alors je ne dis pas 100%, mais 80% des montages sont faits à partir de transistors NPN. Et comment on les monte, ces transistors NPN? Eh bien, l'émetteur doit être à une tension, on va dire, à la masse, donc à zéro, une tension légèrement positive à la base. Pourquoi? C'est qu'ici, base-émetteur, on a une diode, hein, n'oubliez pas, on a une diode jonction. Et donc la tension base-émetteur, là, c'est 1 volt. Hein. Faut pas aller au-delà, parce que sinon, l'intensité base-émetteur va être très importante, et du coup, bah, le transistor, il va cramer. Hein. Comme pour une diode. Et enfin, le collecteur, lui, qui va être à une tension beaucoup plus positive que celle de la base. Voilà. Donc voilà la manière dont... Et évidemment, le transistor PNP, ben, ça va être à l'envers. C'est-à-dire, l'émetteur a une tension très positive, la base a une tension moindre, tout au moins qui se rapprochera plus de la tension ici collecteur. Voilà. Donc, voilà la manière dont ça va fonctionner pour mes transistors. Et donc là, tout ce que l'on va voir, c'est on va le faire avec des transistors NPN. Et d'ailleurs, même la manip de ce soir, je vais la faire sur un transistor NPN. Alors, avant de passer aux composants, la présentation des composants, vous voyez qu'il y a différents boîtiers. Donc après, à force, quand on bricole, on les connaît. Et selon le boîtier, on sait que ça, c'est un boîtier CMS. Donc c'est tout petit. Hein, c'est des trucs... Faut une loupe et une pince à épiler pour les positionner. Et puis après, c'est des plus gros, ça. Évidemment, plus c'est gros. Ici, c'est un boîtier en plastique, donc qui ne dissipe pas beaucoup de chaleur. Et quand on a ici des boîtiers métalliques, on va voir tout à l'heure, on peut mettre des radiateurs pour dissiper plus de chaleur. Voilà. Donc il y a différents types de boîtiers. Voilà. Je vous ai mis les principaux ici. Il y en a sûrement d'autres. Ici, je vous ai mis les quelques transistors que je vous présentais tout à l'heure. Il y a systématiquement un détrompeur. On va en parler quand on va les voir. Pour savoir où est l'émetteur. C'est un truc tout con, ça. Mais c'est important. C'est le détrompeur. Parce qu'une fois que le composant il est monté comme ça sur votre circuit imprimé, vous ne voyez pas les pattes qui sont en dessous. Et donc, vous ne savez plus dans quel sens il peut être. Et donc ça permet comme ça de savoir dans quel sens est le transistor. Tous les transistors, il y a ce qu'on appelle des datasheets. Alors tous les transistors, c'est faux, parce que celui que j'ai là dans mon montage tout à l'heure, en fait c'est une référence du constructeur, qui n'est pas une référence standard, et donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc j'ai beau chercher sur internet la référence qui est marquée dessus, je la trouve pas parce que c'est quelque chose, c'est une référence fournisseur qui est pas du tout connue, et c'est aussi quelque part fait exprès pour qu'on puisse difficilement réparer lorsqu'il faut changer le transistor. Si on ne sait pas ce que c'est un petit peu gênant. On peut pas le remplacer du coup. Si vous avez la référence du transistor et que cette référence existe, vous tapez sur internet juste 2N697 par exemple, si vous avez un 2N697. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Firefox. Voilà. Donc voilà, ça c'est le. Microsemi, ça c'est un revendeur, je suppose, ou un constructeur, je ne sais pas. Mais voilà, il vous donne toutes les caractéristiques, donc déjà le boîtier, les caractéristiques techniques, donc les tensions maximum à utiliser, donc la tension base collecteur, la tension émetteur base, la puissance dissipée, etc., etc. Et vous avez aussi quelque chose qui est très intéressant ici, qui s'appelle le HFE ou Forward Current Transfer Ratio, hein, donc ça c'est ce truc là qui est en fait le gain du transistor. Et donc le gain du transistor, selon ici la version, apparemment il y a plusieurs versions, hein, il y a 96, 97, et puis selon ici la tension qu'on met, ou l'intensité qu'on met dedans, on va avoir des gains différents. Donc voici les gains avec le gain minimum et le gain maximum à chaque fois. Un mini maxi ici, voilà, et puis toutes les caractéristiques, vous en avez encore là, et puis c'est tout, c'est déjà bien. Et quelquefois aussi, vous avez des courbes de réponse des transistors, voilà. Et ça, c'est valable pour tous les transistors. Donc je reviens sur mon PDF. Donc je vais vous passer maintenant mes petits transistors, tant que je vous ai alléché. Alors on va faire balader la webcam. Alors hop, je prends mon stylo. Donc ça c'est des petits transistors ici. Des petits transistors, je vais faire le remonter celui-là. Hop. Plastique. Hein. D'ailleurs, on voit bien, il y a marqué EBC, émetteur basse collecteur. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est peut-être on ne le voit pas trop. Ici, là, j'en ai d'autres. Là, voilà, ça c'est un transistor. Alors il est un peu. C'est un transistor que j'ai dessoudé, donc il est un peu. C'est pour ça qu'il y a un peu de saleté là. Et vous avez la référence du transistor qui est sur le côté, je ne sais pas où. Tout à l'heure, je la voyais, elle est partie. Où il est dessus? C'est peut-être dessus. Non, c'est pas celui-là, alors que j'avais regardé tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, donc vous avez ici d'autres petits transistors. Ici, c'est des plastiques. Donc évidemment, quand c'est plastique, évidemment, ça... Alors, je vais mettre du côté de la référence, donc à faire, c'est mieux. Pas du côté où il y a... Vous voyez, il y a un méplat, là. Du côté du méplat, c'est là où il y a la référence. Et c'est toujours dans le même sens, émetteur, basse, collecteur. Hein. C'est toujours dans ce sens-là, émetteur, basse, collecteur. Côté méplat. Même chose, celui-là, émetteur, basse, collecteur. Il n'y a rien dessus, mais il faut le savoir. Après, ça, c'est des petits transistors. Alors, il est où celui-là ? Voilà. Je ne suis pas dans le côté. Hop. Non. Il ne veut pas rester dans l'autre côté. Bon, peu importe. Voilà, encore un. Ah, j'ai raté. Voilà. Alors, celui-là, il n'y a pas marqué émetteur basse collecteur, celui-là, par exemple. Donc, par contre, c'est toujours dans le même sens. Pas compliqué. Après, là, par exemple, on a un transistor ici. Et là, alors, est-ce qu'on voit... on voit pas très bien. Alors attendez, où est-ce qu'on en a un où on voit bien? Voilà. Là on voit bien la patte, le collecteur là, on voit bien qu'il est sur la partie métallique. Et les deux autres, donc la base et l'émetteur ici, sont isolés. Et là vous avez le petit ergot qui permet de voir où se trouve l'émetteur, et l'émetteur il est à côté de l'ergot. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça y est, pareil celui-là. Il est pareil, celui-là, bon, il est un peu plus petit, voilà, mais ça c'est un transistor, je pense que c'est un FET celui-là. Voilà, et après j'ai des transistors un peu plus gros, voilà, comme celui-là. Alors je vais prendre un peu plus de hauteur. Voilà, donc ça c'est des... transistor avec un peu plus de puissance. Donc là, le collecteur, en fait, c'est toute la semelle. Et donc, vous avez l'émetteur et la base, c'est marqué dessus. Et quelquefois, c'est pas marqué, mais en fait, on remarque que c'est pas pile poil au milieu, c'est légèrement décentré, excentré. Et donc, il faut mettre le milieu, il doit passer légèrement au-dessus. Là, on va le voir plus sur ce transistor ici. Hein, on voit mieux peut-être que c'est excentré, et donc il faut le mettre vraiment les pattes vers le bas pour déterminer ici l'émetteur et la base. D'accord ? Ici c'est un petit transistor, je pense que ça c'est un germanium, ça ressemble à un germanium. Parce que évidemment dans les transistors, vous allez avoir des transistors silicium et des transistors germanium, évidemment. Si je vous ai rajouté ici des radiateurs, donc ça c'est un radiateur, et tout simplement ça se monte, alors je vais peut-être pas réussir, si voilà, ça se monte comme ça tout simplement. Donc ça c'est pour dissiper plus de chaleur, tout simplement. Et évidemment, ça ne marche que sur les boîtiers en métal. Hein. Encore un autre transistor ici. Voilà. Avec la patte qu'on voit bien là, le collecteur qui est sur le boîtier. Ici, deux transistors qui sont montés sur leur radiateur. Voilà. On voit bien là. Voilà. C'est à peu près tout, hein. On a fait le tour de tous mes petits transistors, c'est déjà bien. On va donc après avoir vu les... Donc vous voyez, il y a différentes tailles selon la puissance qu'on veut dissiper. En fait, c'est surtout ça qui est important. Je reviens sur mon PDF. Boum, pop, 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 pop. Voilà. Alors maintenant, on en arrive à la fonction, à quoi sert un transistor, parce que c'est bien gentil, mais c'est pas tout ça. Donc le courant dans le principe du transistor, c'est que ça amplifie de manière linéaire le courant de base. C'est-à-dire, en clair, ici j'ai un courant de base, donc un courant finalement dans la diode entre base et émetteur. Comme j'ai une tension qui est légèrement positive dans un NPN, encore une fois, je suis dans un NPN. Dans un PNP, vous allez réfléchir complètement à l'envers. Mais c'est pas grave. Vous allez... Alors pourquoi c'est le collecteur qui est attaché à la structure et que c'est l'émetteur qui est normalement à la masse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas de raison particulière. Ce qui est certain, c'est que ça pose problème, notamment lorsque le radiateur est mis sur le capot, donc sur la carrosserie de l'émetteur, qui généralement, elle, est à la masse. Et donc là, ça pose des problèmes, et donc il va falloir y faire un système d'isolement, ou alors utiliser un transistor, du coup, PNP, qui, par définition, aura son collecteur à la masse. Voilà, donc c'est pour ça aussi que de temps en temps on trouve des transistors PNP justement pour pouvoir dissiper de la chaleur sur la carrosserie d'un instrument ou même d'un émetteur, mais pas que. Voilà. Donc généralement les NPN ne sont pas trop utilisés, enfin même rarement. Parce que du coup, avec un radiateur, parce que après, on ne sait pas comment isoler le radiateur du reste de la carrosserie. Donc, pour revenir à mon transistor, j'ai un courant de base ici entre base et émetteur, puisque ici j'ai une diode. Hein. J'ai ici une diode. Et donc, ce courant, il va être fonction de la tension. Et donc, cette tension, si je fais varier ma tension, eh bien, de base, par rapport à l'émetteur, eh bien, je vais faire varier l'intensité. Hein, voilà. Et quand je fais varier cette intensité, automatiquement, et ici, quelle que soit la tension, alors que, quelle que soit la tension, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez vu, il y a des caractéristiques techniques dans les datasheets. Donc évidemment, il faut rester dans ce que donne le constructeur, dans les valeurs que donne le constructeur. Mais si on reste dedans, le courant collecteur, ici, va être directement fonction du courant de base. Et c'est le fameux bêta, donc le gain du transistor. Et ici, quand on va parler de gain, on ne va pas parler de décibels. C'est ça qui est un petit peu perturbant, c'est que le gain, tel que donné pour le transistor, c'est un coefficient multiplicateur. Et ce n'est en aucun cas des décibels. Alors, dans les docs techniques, là, quand on a vu marqué HFE, en fait, H, alors ça c'est de la mathématique, H c'est la fonction de transfert, hein, les fonctions de transfert c'est souvent H, F, pour Forward Current Amplification, donc le courant d'amplification direct, et E comme émetteur commun. On verra émetteur commun un peu plus loin ce que veut dire émetteur commun. En fait, voilà ce que veut dire HFE. Et donc, une fois qu'on a défini ce que c'est que le courant de collecteur, eh ben, après, c'est encore une fois, on fait jouer les lois de... Là, en l'occurrence, c'est la loi des nœuds, puisque on va avoir ici courant collecteur, c'est IB, donc le courant de base multiplié par bêta, mais ici mon courant d'émetteur, c'est donc le courant de base, c'est normal, on vient d'avoir, plus le courant de collecteur, puisque le courant collecteur, il ne peut pas revenir sur la base, il ne passe que par l'émetteur. Donc ici, on a bien le courant de base plus le courant collecteur. Si bien que le gain, si je mesure mon courant sur l'émetteur, j'ai un gain de bêta plus 1. Plus 1, puisque j'ai le courant de base. Et donc, voilà comment... alors après, on peut s'amuser avec toutes les formules. Là, je vous les ai mis, si ça vous intéresse. Mais elles s'appliquent bêtement. C'est-à-dire qu'à l'examen aussi, on peut vous donner deux valeurs, c'est-à-dire le courant collecteur, le courant de base, et on va vous demander le gain. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris la manière dont ça fonctionne, et n'oubliez jamais que dans l'émetteur, dans le courant émetteur, on a aussi le courant de base. Donc, on a le gain, le coefficient multiplicateur du courant dans l'émetteur, c'est bêta plus 1. Donc, le gain du transistor plus 1. Ce qui est très important à savoir, mais il n'y a pas de question à l'examen, mais il y a des conséquences derrière, c'est que le gain est toujours donné par le constructeur pour du courant continu. Ça va nous embêter parce qu'on est plutôt adepte du courant alternatif, nous, et pour une température de 20 degrés. C'est-à-dire que si si la température est plus élevée que 20 degrés, le gain va augmenter. Et en plus, plus le transistor va chauffer, plus le transistor va générer de bruit. Et ça, c'est quand même un peu gênant, c'est que nous, on va voir plus tard quand on va s'occuper de la partie, des différents étages, que l'on va chercher systématiquement à minimiser le bruit. Donc il faut faire en sorte que le transistor chauffe le moins possible. Donc éviter de sous-dimensionner, entre guillemets, un transistor, vaut mieux le surdimensionner pour ne pas qu'il chauffe. Et surtout, ça c'est valable en réception, évidemment, en émission encore c'est pas très grave, on rajoute du bruit, et c'est surtout catastrophique en réception. Deuxième chose, je vous ai dit, le gain est donné pour du courant continu. Que se passe-t-il lorsqu'on a du courant alternatif ? Eh bien, tout simplement, le gain du transistor diminue. Et alors, il diminue plus ou moins vite selon le type de transistor qu'on va utiliser. Donc, il y a des transistors qui sont plutôt utilisés pour la basse fréquence et d'autres qui vont utiliser pour la haute fréquence et même la très haute fréquence. Voilà, fréquence de coupure, alors comme un petit peu pour les circuits, comme pour les filtres, la fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle le gain n'est plus que de 70% du gain initial. Et évidemment, c'est mesuré à 20 degrés, c'est mieux. Voilà, et ça correspond à une perte de puissance d'environ 3 décibels. C'est la même chose que pour nos filtres. Donc voilà, ça détermine les caractéristiques du transistor. Bon, pas de question à l'examen, heureusement. Pas exagéré. Là, je vous ai mis ça, c'est pour que vous sachiez d'où vient cet effet transistor. C'est un PNP là, que j'ai trouvé sur Internet, c'est un schéma de PNP. Et évidemment, le NPN, il va marcher à l'envers, mais c'est pas très grave. Donc, ici, émetteur, base, collecteur. Émetteur, il est très fortement dopé P. ma base, elle est très fine et elle est très faiblement dopée. Et mon collecteur, il est dopé pas extraordinairement bien. Que se passe-t-il lorsque je fais passer du courant? Là, donc dans mon NPN, dans mon PNP, pardon, donc dans le sens PN, ici, donc, je vais avoir des électrons qui vont se recombiner au trou qui est de l'autre côté, mais ici, je n'ai pas beaucoup de trous, puisque c'est très faiblement dopé. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, les électrons qui sont là, enfin les trous plus exactement, puisque c'est des P, les trous qui sont là, ils vont passer au-dessus finalement de cette base, parce que ici ils vont trouver aucune possibilité de se recombiner avec les électrons qui sont là. Et donc, c'est pour ça que le courant de collecteur, il est directement fonction du courant de base, c'est-à-dire que plus il y a de courant de base, plus ici il va y avoir d'instabilité au niveau de ma base, et donc plus il y aura d'électrons qui vont sauter carrément la base pour arriver directement dans le collecteur. Voilà, donc ici je vous ai mis toute la... Enfin, il n'y a pas de question à l'examen. Donc. Mais ce qui est gênant, et je le rappelle, c'est que c'est la recombinaison trou électron qui génère du bruit. Et qui donc s'ajoute au signal amplifié. Et donc, cette recombinaison dans un transistor... Alors, ce transistor-là, ça s'appelle un transistor bipolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux diodes, donc c'est bipolaire. On va voir d'autres transistors tout à l'heure où on n'a pas de recombinaison. C'est un autre moyen, c'est un autre type de transistor où il n'y a pas de recombinaison de trous électrons et donc ça génère moins de bruit. En plus, les transistors germanium, pourquoi je suppose que la tension PN étant plus faible, ça doit moins chauffer, mais je ne suis même pas certain que ce soit ça, génère moins de bruit que ceux au silicium. Et donc pour faire en sorte qu'il y ait moins de bruit possible, on va utiliser d'autres types de transistors qui s'appellent les FET. Enfin, FET et autres transistors MOSFET, enfin les dérivés des FET. Donc, question typique à l'examen, voilà. Sur la base d'un transistor dont le gain bêta est de 80, on applique un courant de 50 microampères. Quelle est l'intensité constatée? On fait tout simplement 50 microampères multiplié par 80. Alors, faites attention juste aux multiples et aux sous-multiples, parce que... Mais voilà. Donc, si je fais 500 multiplié par 80, ça fait 40 000 microampères, donc 40 milliampères. Et pour ceux qui aiment bien les triangles, ils peuvent se souvenir de ce triangle-là, qui permet comme ça de trouver éventuellement le gain à partir du courant collecteur et du courant de base. Donc on obtient le gain. Ou inversement, si on veut calculer le courant de base à partir du courant collecteur, eh bien on fait IC divisé par le gain bêta. J'ai oublié de dire ici, cette lettre, le B avec la petite barre, là, ça c'est la lettre grecque B, enfin bêta majuscule, donc le B, qui est donc, et donc c'est le bêta du transistor, donc le gain du transistor. C'est pas mon PDF ici qui a bavé, c'est bien la lettre B, le bêta grec majuscule. Les montages fondamentaux, il y en a trois, parce qu'évidemment, comme vous avez trois pattes, ben vous avez trois manières de présenter les choses, c'est-à-dire que les trois pattes, en fait, il n'y en a que deux qui sont utilisées pour une, envoyer l'entrée, enfin le signal d'entrée, et la deuxième pour récupérer le signal de sortie, et puis une troisième qui finalement est juste là pour dont la tension elle est fixe. D'accord ? Donc on a trois possibilités finalement pour monter un transistor. Et ces trois possibilités, elles vont donner des résultats différents, sachant que l'émetteur commun, c'est le système le plus utilisé, le plus connu. Et la base commune, c'est le moins utilisé. Le collecteur commun est un peu utilisé, on va voir pourquoi. Et ce qui est très important dans ces montages, parce qu'évidemment il y a des questions à l'examen dessus, c'est à chaque fois reconnaître le gain de chacun des montages, le gain en intensité, ça c'est facile, c'est le bêta, le gain en tension qui est quelque chose de très théorique en fonction des autres composants qu'il y a autour qu'on verra la semaine prochaine, et puis l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie et le déphasage. Le déphasage, on le verra aussi la semaine prochaine. Pourquoi il y a un déphasage ? Déphasage de 180 degrés, en fait, ça veut dire tout simplement que le signal de l'entrée est inversé par rapport au signal de sortie, c'est tout. Et on verra pourquoi la semaine prochaine. Donc, dans le cas de mon émetteur commun, c'est le cas classique, donc là, c'est la définition même du gain, c'est dans ma définition dont je parlais ici, on va y arriver, ici où ? Je me souviens, je la retrouve même plus. Ici, voilà, HFE, donc le gain, c'est en émetteur commun. Common émetteur. Donc le gain, tel que défini, il est valable pour l'émetteur commun, donc ce montage-là. L'entrée, je la mets ici sur la base. La sortie, je la récupère sur le collecteur. Et donc, mon émetteur, il est à la masse, donc avec une valeur stabilisée. Stabilisée, donc, qui ne bouge pas. Et donc, mon entrée, ici, elle se fait entre ma masse et mon collecteur, et ici, ma sortie se fait entre la masse et la sortie. D'accord ? Donc, le gain, c'est bêta, on vient de le dire. Le gain en tension, c'est un gain qui est moyen. Alors moyen, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire, grosso modo, on va dire la moitié, à peu près la moitié du gain en intensité. En fonction, encore une fois, des composants qu'on va mettre autour. Les composants qu'on va mettre autour, on va les voir la semaine prochaine. Parce que là, le transistor, il est tout seul, mais il est tout nu. Il a besoin d'autres petits composants autour pour fonctionner. Et donc c'est ces composants qui vont faire qui vont vous donner précisément le gain en tension. L'entrée ici, l'impédance d'entrée, elle est moyenne. Alors qu'est-ce que c'est que impédance moyenne, haute, etc. Ici je vous ai mis les ordres de grandeur ici des impédances. Donc impédance basse, c'est qu'elle est inférieure à 30 ohms. Impédance moyenne, c'est qu'elle est comprise entre 30 et 300 ohms. Impédance élevée, entre 300 et 3000 ohms. Et impédance très élevée, supérieure à 3000 ohms. Ça, c'est l'ordre d'idée. C'est savoir comment ça se comporte. Et ici, ce que j'ai mis, ici, ce sont les niveaux. Niveau d'entrée avec les différentes entrées ou sorties, donc BC base commune, CC collecteur commun. Donc ici, mon impédance d'entrée est moyenne en émetteur commun, et je ressors en impédance élevée en émetteur commun, et avec un déphasage de 180 degrés, chez les deux. Lorsque je suis ici en collecteur commun, ici, le collecteur, je le laisse ici à ma tension positive d'alimentation. Et mon entrée, je la laisse toujours sur ma base. Et ma sortie, du coup, elle est sur mon émetteur. Au niveau du gain, En intensité, on a dit qu'on avait bêta plus 1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, impédance d'entrée signifie que les résistants choisis permettent un rapport particulier. Alors, ça peut être ça, oui, mais ça peut être tout simplement parce que j'alimente avec du 50 ohms, donc mon câble coaxial. Mon câble coaxial, je sais très bien qu'il est de 50 ohms. Ou je peux aussi alimenter avec un transformateur. Connaissant l'impédance que j'ai à l'entrée de mon transformateur, en sortie compte tenu du nombre de spires, et bien je sais quelle impédance je vais avoir en sortie. Et donc c'est ça que j'apporte à l'entrée de mon transistor. Et c'est le même raisonnement pour la sortie. Ça va fonctionner de la même manière. On verra ça plus précisément la semaine prochaine quand on verra tous les composants qu'il y a autour. Donc mon collecteur commun gain en intensité, c'est bêta plus 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de gain en tension. Pourquoi ? C'est qu'on voit bien ici la tension en entrée, elle va être même supérieure à ma tension de sortie. Et donc, puisque ici j'ai 1 volt, hein, je perds 1 volt, hein, n'oubliez pas, je perds 1 volt. Et donc, automatiquement, eh ben, ma tension de sortie, eh ben, elle va être plus basse que ma tension d'entrée. Et donc, j'ai pas de gain, j'ai même un gain inférieur à 1. Au niveau de l'impédance, j'ai une impédance élevée en entrée. Pourquoi élevée ? C'est que comme ici, j'ai un gain d'intensité, mais pas de gain de tension, ici, du coup, le rapport d'impédance, ça va changer, ça va augmenter l'intensité, c'est tout ce que ça va faire. Mon système ici va augmenter l'intensité dans la sortie, mais ne va pas changer la tension. Et si j'augmente l'intensité, eh bien ça veut dire que je vais abaisser l'impédance. Donc d'une impédance élevée que j'ai ici en entrée, je vais me retrouver avec une impédance basse qui va être fonction directement du gain. Alors évidemment, si j'ai un gain qui est faible du style 25, eh bien évidemment, l'écart d'impédance va être relativement faible. Et si j'ai un gain, par exemple, de 100, qui est assez courant pour un transistor, eh bien je vais avoir un rapport ici entre les deux, entre mes deux impédances de 100, puisque j'ai quasiment la même tension. Et ce montage-là ne génère pas de déphasage entre l'entrée et la sortie. L'intérêt aussi de ce montage comme ça en collecteur commun, c'est que de ce fait, ici, je peux mettre mon transistor, enfin la carcasse de mon transistor ici sur un radiateur, puisque ici ma tension, elle bouge pas. Donc je vais plus facilement utiliser ce système-là avec un radiateur. Tout au moins le radiateur, je vais pouvoir le fixer quelque part sur, alors peut-être pas directement sur ma carcasse, puisque je vais utiliser dans ce cas-là des isolants en mica pour faire l'isolement justement, l'isolement galvanique entre les deux, mais je vais utiliser ce système-là pour dissiper de la chaleur sur un gros radiateur. Et enfin le basse commune qui est assez peu utilisé. Et alors là, l'entrée, elle se fait ici sur l'émetteur, la sortie sur le collecteur, et c'est la base qui va être dont la tension va être fixée ici par un pont de résistance. Et donc une fois qu'on a réglé ici cette tension, eh bien ça ne bouge pas et c'est ce qui va donner finalement. Enfin, c'est ce qui va permettre de régler le transistor, l'amplificateur. Ici, on voit bien que l'intensité que j'ai dans l'émetteur est égale, grosso modo, à ce que j'ai dans le collecteur. Hein, la différence entre mes deux intensités, là, c'est mon intensité de base. Et donc, même, elle est légèrement inférieure. C'est-à-dire que là, j'ai plus d'intensité dans mon émetteur que dans mon collecteur. Donc j'ai un gain d'intensité qui est légèrement inférieur à 1, précisément bêta divisé par bêta plus 1. Alors, comment se fait-il qu'il y ait de telles grandes impédances en sortie? C'est lié lui-même. Ah non, cette impédance en sortie, c'est lié finalement au montage et aux composants qu'on va monter autour. Encore une fois, ces composants, on les verra la semaine prochaine. Donc, n'allez pas trop vite. Et ce qu'on va voir précisément la semaine prochaine, c'est plus l'émetteur commun. Parce que finalement, dans la vraie vie, ce que vous allez voir le plus souvent, c'est quand même l'émetteur commun, le collecteur commun de temps en temps, mais c'est surtout l'émetteur commun. Et la base commune, on va voir très peu utilisée, tout au moins pour nos applications. Pourquoi ? C'est que l'utilisation, c'est un peu compliqué. Le gain en tension ici est élevé. Et donc, si je n'ai pas de gain en intensité et un gain en tension élevé, automatiquement, je vais avoir un gain en impédance qui va être élevé. Et donc, de basse impédance, grosso modo, 30, dans les 30 ohms, on va arriver ici à un rapport ici de 100 qui va nous donner, 100 et même plus, qui va nous donner ici une impédance très élevée. Ça, c'est typiquement des systèmes d'adaptation d'impédance. C'est-à-dire quand on a une faible impédance et qu'on veut se retrouver avec une impédance très élevée. Mais en règle générale, en radio, on n'utilise pas trop ces montages-là. Enfin, je ne vois pas dans quel cadre on peut l'utiliser. Ça, typiquement, collecteur commun, on va trouver ça dans les alimentations. Pourquoi ? C'est qu'on a besoin d'intensité, mais pas de tension. Et donc, l'intensité, là, elle est stabilisée en collecteur commun. Et on va aussi les voir, ces systèmes-là, dans les amplificateurs pour alimenter un haut-parleur. Puisque souvent, les haut-parleurs, ils ont une basse impédance. Et donc, le dernier transistor d'amplification audio-fréquence va être monté en collecteur commun pour justement délivrer de la bonne impédance au haut-parleur. Voilà. Donc ça, ce sont les trois montages fondamentaux. Il y a quand même pas mal. Il y en a sur les 700-800 de la base de données, il doit y avoir une dizaine, quinzaine qui tournent autour de ces... Et donc la question c'est quelle est l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie, le gain en tension, etc. pour un des montages. Voilà. On en arrive aux autres transistors qui sont un peu spéciaux. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un FET. Je pense que ça s'en est un. Et j'en ai un deuxième là, je vais vous les présenter à la webcam. Je pense que c'en est, je ne suis pas certain parce que j'arrive pas à voir tout au moins la référence qu'il y a dessus n'est pas une référence normalisée, quoi, on va dire comme ça. Voilà, ils sont là. Et donc ça, je pense que ce sont des FET. Et donc... voilà. Donc ça ressemble un peu à un transistor, il y a trois pattes, pareil, mais ça va pas marcher de la même manière. Je m'explique. Donc déjà, que veut dire FET ? Ça veut dire Field Effect Transistor. En français, c'est transistor à effet de champ. Donc en français, on devrait appeler ça des TEC, transistor à effet de champ. Mais en fait, tout le monde appelle ça des FET. Je vous rassure. Et en fait, le système... Ça s'apparente plus au tube qu'on va voir juste à la fin du cours qu'au transistor jonction. Pourquoi ? C'est que ce qui commande. Alors, le but ici du. Comment c'est foutu déjà en fait ? C'est plus simple à expliquer. Comment c'est foutu ? C'est un barreau ici de type N. Donc, ça, c'est un FET canal N. Parce qu'il y a aussi évidemment des FET canal P. Automatiquement, hein, c'est comme les transistors, ça peut marcher dans les deux sens, mais la plupart des FET fonctionnent avec un canal N. Et donc, il y a un canal avec autour une bague qui s'appelle la porte, gate en anglais, Et donc ça a donné un mot en français, on appelle ça grille, mais c'est pas une grille, c'est gate. C'est mauvaise traduction du G anglais. Donc j'ai un courant qui va passer ici dans mon canal N, et lorsqu'ici je mets une tension négative sur ma porte, j'ai bien dit négative, ici j'ai donc une jonction PN, et j'ai ma barrière de potentiel là qui va grossir au fur et à mesure que ma tension ici devient négative. Et plus elle est négative, plus ici la bague ici rétrécit la largeur du canal, et même au bout d'un moment, il y a la barrière de potentiel, elle bouche complètement le canal, et il n'y a plus aucun courant qui peut passer dans mon transistor. Donc, par rapport à mon transistor bipolaire, où c'était l'intensité de base qui fait varier l'intensité collecteur, là c'est la tension sur la porte qui fait varier l'intensité. Alors on appelle ça, l'entrée c'est la source, la sortie c'est le drain, pour différencier de émetteur-collecteur. Et donc l'intensité de drain, elle va être fonction de la tension sur la porte. Et donc, c'est pas un coefficient multiplicateur, ça s'appelle une pente. Voilà comment ça se représente. C'est-à-dire que, évidemment, si c'est une tension qui est positive, j'ai une jonction PN, donc ma diode, enfin, je vais avoir un courant dans ma porte, et le fait qu'il va servir strictement à rien. Ça ne marche, mon système, que lorsque je mets une tension soit légèrement positive, un tout petit chouille, c'est-à-dire faut surtout pas que j'arrive au 0,7, c'est-à-dire au moment où ma diode devient passante, mais je suis en dessous, et donc j'ai ici une pente, ça s'appelle une pente, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une pente, jusqu'à temps que, ma tension, plus elle est négative, plus mon canal ici se resserre, et donc moins j'ai d'intensité, pour arriver à une certaine tension ici, qui s'appelle le cut-off, décollage en français, qui est la tension pour laquelle ma diode est complètement coupée, qui va être fonction finalement de la dimension ici, d'espacement que j'ai ici, au niveau de mon canal ici. Voilà. Donc drain, porte, source. Et quand on prend ici un transistor, c'est gain, drain, source. Source, drain, porte. Dans ce sens-là. Là, je vous ai présenté donc un canal N, mais un canal P, évidemment, ça va marcher à l'envers, les intensités à l'envers, les tensions à l'envers, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des J-FET. Pourquoi J ? Parce que c'est une jonction. Ici, on a bien une jonction. Donc ce sont des J-FET. Et on a aussi des MOS-FET, où il n'y a pas de jonction, donc c'est pas une structure, j'ai pas de jonction PN, je vais avoir autre chose, je vais avoir une structure, que je vais zoomer parce que vous n'allez pas voir, donc ici vous avez toujours pareil, source drain, et ici les portes, alors souvent dans les MOSFET il y a deux portes. Pourquoi ? C'est que vous allez avoir la possibilité de régler le gain, enfin la pente, grâce ici à la tension d'une des portes. C'est-à-dire que vous allez mettre le signal amplifié sur une porte, et sur la deuxième porte, vous allez définir à l'aide de la tension, tout simplement, la pente de votre MOSFET. Évidemment, c'est, encore une fois, ça tout... Tout va dépendre des composants que vous mettez autour de votre transistor. Ici, donc, vous avez une structure, un substrat P, donc la base. Ici, N. Donc ici, PN, ça ne peut aller... Enfin, ici, la jonction PN ne peut aller que dans ce sens. Donc le courant ne peut aller que dans ce sens. Le problème, c'est que ici, on va avoir une tension positive et ici, une tension 0 volt ici et une tension positive ici. Si bien que là, je ne vais avoir jamais de courant PN dans ce sens-là. En revanche, ici, je vais faire en sorte sur mes portes d'envoyer ici une tension négative. Cette tension négative ici, positive, on va y arriver, je pense qu'elle grandit assez, voilà, on voit mieux ici. Hein. Ici, j'ai une tension positive, et c'est comme un condensateur, c'est-à-dire que cette tension positive va me générer de l'autre côté une tension négative. Ça, c'est comme un condensateur. Donc si j'ai une décharge positive d'un côté, j'ai des charges négatives de l'autre. Comme j'ai des charges négatives ici dans un substrat P, ça va faire en sorte que le courant entre ici la source et le drain va pouvoir passer. Et donc, plus j'ai une tension ici positive, plus ici elle sera négative, et donc ici, plus ça va passer entre ma source et mon drain. Et donc là, encore une fois, je n'ai pas de recombinaison. C'est juste ma barrière de potentiel qui est plus ou moins repoussée et qui donne plus ou moins ici de passage au courant. Alors effectivement, un MOSFET, ça peut être comme un JFET programmable. On peut dire comme ça, mais c'est pas exactement les mêmes choses. Les MOSFET sont plus utilisés en règle générale pour dissiper de la chaleur. Les JFET sont plus utilisés pour des petites puissances. Et puis il y a des applications spécifiques aussi pour les MOSFET, notamment mélangeurs, qu'on verra quand on fera les étages HF plus loin. Voilà ce que c'est un JFET. Donc, et comment c'est représenté? C'est représenté comme ça. Donc la drain, le source, enfin la source, le drain, et ici mes deux portes, G1, G2. D'accord? Et ça, donc, c'est un substrat P, et donc ma flèche, là, elle est comme un PNP. Elle pénètre. Puisque c'est un substrat P. Et mais vous avez aussi, encore une fois, des MOSFET qui sont montés dans l'autre sens. Et donc, il y a avec un substrat N. Et donc, la flèche, elle va être dans l'autre sens. Donc, quand on monte un schéma, de toute façon, on prend la référence qui est indiquée, c'est le plus simple, plutôt que de se creuser la tête. Et généralement, les références sont assez proches l'une de l'autre quand c'est du N ou du P, puisque les caractéristiques techniques sont quasiment identiques, c'est juste le prix qui change. Je vous passe à la webcam quelques MOSFET que j'ai. Alors là, je vous en ai trouvé un sur Internet. Alors c'est un MOSFET, ici la source, elle se repère ici avec le petit... Alors la source, c'est toujours ça qui est repéré. Hein. Comme l'émetteur, c'est la source qui est repérée. Ici, ce qui est repéré, ici, la source, il y a une espèce de petit ergot là. Le drain est plus long, et les deux portes ici, les deux gates, elles ont la même longueur. Donc c'est comme ça qu'on les repère. Il y a d'autres systèmes de repérage que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc ça c'est un petit MOSFET. Alors, le repérage, il est où? Il y en a un. Je ne sais pas si... Alors, en bas, vous voyez la... Alors, c'est la source qui est en bas. Parce que la broche, là, elle est légèrement biseautée. Légèrement. À la webcam, je ne sais pas si trop ça se voit. mais voilà, donc elle est légèrement biseautée, et donc la source en bas, le drain en haut, et de chaque côté, on a les deux, les deux portes. D'accord ? Avec la référence, la CS124, je ne sais même pas ce que c'est, parce que je n'ai pas trouvé ce que c'était. Puis là, vous en avez un autre, qui ressemble étrangement. Alors, ça ne bouge plus. C'est aussi un CS124. Et donc, qui n'est pas exactement fait pareil, mais voilà. Enfin, ce n'est pas exactement les mêmes dimensions. Alors, la plupart du temps, c'est vendu. Je reprends un peu de hauteur. C'est vendu dans les petites boîtes comme ça. Je mets la webcam. Voilà, je fais mon mise au point. C'est vendu dans des petites boîtes comme ça, tout simplement parce que ces composants, autant le transistor jonction, c'est pas très, pas très sensible, je dirais, mais ces transistors-là sont très sensibles, notamment à l'électricité statique. Donc c'est pour ça qu'on les vend comme ça dans une petite boîte, pour pas que le statique, notamment de la main, par exemple, viennent cramer la jonction qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est pas des MOSFET de puissance, évidemment, quand on voit ça. Ça, c'est certain. Mais vous en avez d'autres qui sont beaucoup dans des boîtiers beaucoup plus gros qui permettent de faire de la puissance. Je reviens sur mon PDF. Autre transistor. Alors, il y a des questions à l'examen dessus. Le transistor unijonction, problème, il n'est absolument pas utilisé par les radioamateurs. En fait, on va surtout les trouver, ça, dans les commandes de moteurs, notamment des machines à laver, ce qui permet de faire varier la vitesse du tambour, par exemple. Maintenant, ils sont de plus en plus remplacé par les thyristors, qui a une fonction à peu près semblable. Voilà. Et donc, ce transistor unijonction, c'est en fait, c'est une base, il y a un signal d'entrée avec deux bases, et c'est l'équivalent un petit peu d'un thyristor. Un thyristor, en fait, c'est, d'ailleurs on va le voir juste après, c'est une diode qui hache, en fait, qui à partir d'une certaine tension, elle est passante, et elle reste passante tant qu'il y a du courant dedans. Et le transistor unijonction, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc le transistor unijonction, ça s'appelle aussi le transistor à deux bases. Pourquoi ? Parce qu'il y a la base 1, la base 2 et l'émetteur, il n'y a pas de collecteur. Voilà. Et évidemment, la question d'examen, c'est comment s'appellent les broches d'un transistor unijonction. Voilà. Et évidemment, dedans, les réponses, on a évidemment émetteur basse collecteur. Ça aurait été, c'est le piège le plus classique. Le thyristor, pas de question à l'examen dessus. En fait, c'est une diode qui devient passante lorsqu'on applique une tension dessus. La tension, on l'applique ici sur la cathode. Donc les broches d'un thyristor s'appellent anode, cathode, gâchette. Voilà, donc anode, cathode, c'est entrée-sortie, et gâchette, c'est ce qui permet de de le faire marcher. Alors on parlera effectivement des triodes à lampe, hein. On va y arriver, il n'y a pas de question dessus, mais c'est pas grave. Triac, alors le triac, c'est en fait c'est un thyristor, mais c'est deux thyristors qui sont montés tête bêche, c'est pour pouvoir les utiliser aussi en courant alternatif. On les a utilisés une vingtaine d'années, notamment dans les lampes halogènes, où on avait le petit variateur, là. Et le variateur, tout simplement, c'était un petit triac qu'il y avait dedans, qui achetaient le courant et qui faisaient plus ou moins de lumière, du coup, qui alimentait plus ou moins l'halogène qu'il y avait derrière. Voilà. Mais encore une fois, pas du tout utilisé pour les radioamateurs. Tout au moins pas utilisé en HF. On en arrive aux diodes. Alors, au programme de l'examen, on n'a qu'une seule diode. On ne parle que d'une seule diode. Il n'y a pas de question à l'examen dessus, mais on n'en parle que d'une. C'est la diode thermoionique. C'est son nom officiel. Donc, ce sont les diodes tube. C'est quoi une diode tube? Donc ça, c'était avant l'invention du transistor, encore une fois. Donc c'est mis en place grosso modo 1905, par là, juste un peu avant la Première Guerre mondiale, où en fait c'est dans les laboratoires Edison. Edison, donc c'était les ampoules d'éclairage. Hein. Et donc, ils font des recherches, machin, et ils tombent sur un phénomène bizarre, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que quand on fait chauffer le filament de l'ampoule d'éclairage, et qu'on met à proximité quelque chose de métallique, on peut récupérer un courant dessus, et le courant a toujours le même sens. Donc c'est quand même... tout ça, on se dit, bon, à quoi ça peut servir, ça ne sert pas trop, mais ça vient après, où on se dit, mais c'est pas mal, ça permet comme ça de redresser le courant alternatif. Hein, donc, voilà. Et donc, on développe ces diodes thermoioniques, donc on a un filament de chauffage. Ici, ce que l'on appelle une cathode, donc c'est un morceau métallique qui est un peu traité de manière à ce qu'on émette plus facilement des électrons. Donc en fait, les électrons sont éjectés finalement de la cathode. Et ici, elle est reliée au moins à la cathode, donc elle est générate. Ici, c'est générateur d'électrons. On a le filament ici. Ce filament chauffe la cathode. Mes petits électrons qui sont sur la cathode, ils ont tendance à partir de la cathode. Et à côté de la cathode, on met ce qu'on appelle une plaque, une anode. Et donc, on retrouve d'ailleurs les mots utilisés dans la diode. Hein. Et donc, cette anode, on la relie au plus. Et on va s'apercevoir qu'il y a un courant ici, entre cathode et anode. Et plus la tension de plaque est importante, plus l'intensité est importante. Voilà, c'est assez con comme truc. Et donc cette anode, à cause de sa forme, parce que concrètement, c'est une plaque, hein, c'est une plaque de métal qui est autour de la cathode et qui finalement récupère les électrons qui sont émis par la cathode. Voilà. Et donc le tout est mis dans une ampoule en règle générale en verre, mais aussi on en trouve en céramique. Et dans cette ampoule, évidemment, on a le vide. Le principe même de l'ampoule d'éclairage, de la lampe d'éclairage de Thomas Edison. Voilà, donc quand on, ça c'est le schéma d'une de ces vieilles lampes. Alors, dans quelquefois aussi, on n'a pas de cathode, de vraie cathode en fait. On a le filament qui sert finalement de cathode. Voilà, c'est le filament qui est traité d'une manière spéciale. Qui sert de cathode, et donc on a la plaque juste à côté qui récupère le courant. Bon, jusqu'à présent, donc on a redressé du courant, on est content. Et, 3 ans après, on a un certain Lee de Forest qui a l'idée, alors je ne sais pas comment ça lui est venu, de rajouter ici entre plaque et cathode une grille de commande. Et quand on dit une grille, c'est une vraie grille. Donc c'est du petit grillage qu'il y a autour. Et sur ce petit grillage, il met une tension légèrement, légèrement négative. Ce qui veut dire que mes électrons qui sont émis par la cathode et qui sont attirés ici par l'anode, finalement, ils sont un petit peu gênés de retrouver cette grille ici qui les perturbe et qui les empêche de passer. Et évidemment, plus j'augmente ici ma tension, plus mon courant ici va être limité. On va retrouver un petit peu ce que l'on a vu dans le FET, dans le transistor effet de champ. Et donc, voilà, donc ça, c'est l'invention de monsieur Lee de Forest, et ce tube, il appelle ça l'audion. Pourquoi ? Parce que ça sert à amplifier de l'audio. Et derrière, on a le haut-parleur, tout simplement. Donc, voilà comment est né. Alors, évidemment, comme on a maintenant trois éléments, hein, je vous avais dit la semaine dernière, odos, la rue, la voix, diode, deux voix, et bien, si on met trois ici broches, ça fait une triode, tout simplement. Et voilà, et donc on a réussi à faire un système d'amplification. Problème, c'est que quand on est en basse fréquence, ça fonctionne. Quand on monte un peu en fréquence, on s'aperçoit qu'on a des problèmes capacitifs, de capacité, donc condensateur, ici, entre la grille et la plaque. Ici, ça forme un condensateur. Et donc, ce truc-là, il a tendance à auto-osciller. Et ça, c'est quand on monte en fréquence. Donc, quelque chose qui, normalement, devait amplifier, en fait, il génère son propre signal, tout seul. Donc, il auto-oscille. Et c'est un petit peu gênant. Et donc, faut attendre un petit peu, quand même, dans les années, enfin, après-guerre. La triode, elle a été vraiment utilisée de manière intensive pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu des usines à Lyon notamment, en France, qui permettaient de fabriquer des triodes. Pourquoi ? C'est qu'elles étaient utilisées pour l'armée pour passer les transmissions dans les tranchées. Donc la triode, à la fin de la guerre, donc en 1918, à la fin de la guerre, il y avait des stocks énormes de triodes, parce qu'on en avait fabriqué des tas et des tas. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de la guerre, le prix de la triode se casse la figure, et on peut commencer à penser à utiliser ces triodes pour faire de la radio, puisque la première émission radio en France, c'est 1921. Donc juste un peu après la guerre. Et là, on a un stock de diodes énorme qu'on va utiliser pour faire ces récepteurs radio. Voilà, petite histoire. Et donc, la tétrode, elle est arrivée 1924-1925, par là, parce que, arrivée avec la radio, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes capacitifs. Ces problèmes capacitifs, donc c'est ce condensateur qu'on a entre grille et plaque. Et donc, on rajoute ici une grille qu'on appelle écran et qui va être à une tension à peu près comprise entre à mi-tension de la node pour faire en sorte qu'on n'ait pas ce problème-là. Alors, il y a d'autres systèmes aussi qui consistent ici à mettre un condensateur entre la plaque et la grille pour éviter pour limiter cette capacité parasite. Tout au moins pour la détourner, pour la mettre ailleurs. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on s'aperçoit que, parce qu'entre-temps la technique a évolué, on fait augmenter les tensions, etc. etc. Et du coup, dans ma tétrode, qu'est-ce qui se passe? Mes électrons, ils passent donc la grille de commande normale, ils passent la grille écran, mais la tension est assez importante du coup, parce que le fait de rajouter cet écran, là, je suis obligé de rajouter de la tension sur ma plaque, sur mon anode. Et donc, mes électrons, ils arrivent ici, plein pot. Ils arrivent sur la plaque, et pas de chance, ils arrivent tellement vite qu'ils rebondissent, et pof, ils reviennent sur l'écran. L'écran, ben, c'est une tension qui est, alors, certes, moins forte que celle de la plaque, mais c'est une tension positive quand même, et si bien qu'on se retrouve avec un courant d'écran, qui pose d'autres problèmes. Et donc, on arrive à la solution de la pentode. Donc là, tétrode, il y en a 4 des broches. Pentode, il y en a 5. Et donc, on rajoute la grille suppresseuse qui a une tension ici égale à la tension ici de la cathode. Si bien que les électrons, une fois qu'ils sont arrivés sur la plaque, ils ne reviennent plus en arrière. Voilà, tout ça pour ça. Donc, vous avez différents, tous ces tubes-là existent encore. On peut aussi utiliser du coup la tétrode en tant que mélangeur, puisque on a deux grilles, donc on peut mettre un signal d'entrée et un signal de mélange, enfin deux signaux d'entrée qui vont du coup se mélanger. Un petit peu comme on a vu avec le MOSFET tout à l'heure. Et on peut aussi utiliser la pentode pour faire ce genre de manip. Voilà, donc pas de questions à l'examen dessus, heureusement. Mais voilà, ça vous permet comme ça d'avoir une idée de tous ces composants. Alors là, pour le moment, on voit que les tubes comme ça, mais dans certaines ampoules, on peut avoir plusieurs fonctions, plusieurs tubes. C'est-à-dire que alors, ceux qui font de la restauration de matériel ancien, ils connaissent bien ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois des ampoules où on accueille, par exemple, une pentode et une triode, qui permet de faire oscillateur mélangeur. Donc voilà, on peut aussi avoir des doubles diodes qui vous permet comme ça d'une seule fois d'avoir mes deux diodes pour faire mon redressement double alternance. Voilà, donc on peut avoir des tas de possibilités. On en arrive aux questions d'examen. Alors, nommer les trois électrodes d'un transistor bipolaire, donc émetteur, basse collecteur, patin, papier, pan C, entrée, commun, sortie, cathode, anode, gâchette, et évidemment, émetteur, basse collecteur. Quel est le courant IC? Donc là, alors histoire de vous perturber, j'ai rajouté ici la valeur d'une résistance qui ne sert strictement à rien, si ce n'est vous perturber. Et donc, bah, il suffit de multiplier mes 12 microampères par 150. Et alors, ça fait quoi? Ça fait 1,8 milliampères, puisque ici, ce sont des microampères. Hein, donc, ça fait 1800. 1800 microampères, c'est 1,8 milliampères. Et là, quel est le gain du transistor? Donc, encore une fois, il y a plein de composants qui ne vous servent à rien. Ici une résistance sur la base, ici une résistance sur le collecteur qui ne sert à rien. Et ici, si j'ai 100 mA sur le collecteur et 101 mA sur l'émetteur, c'est que j'ai 1 mA qui provient ici de mon émetteur. Et donc, le gain, c'est 100 mA divisé par 1 mA, donc 100. Tout simplement. Et donc, encore une fois, les valeurs ici de mes résistances qui viennent, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, hein, mais qui viennent compléter le système, faire le circuit, eh bien, elles ne servent strictement à rien si ce n'est que vous perturber. Voilà les réponses. On n'est pas trop mauvais. Alors, quelle est l'impédance d'entrée d'un transistor monté en basse commune? Je passe. Parce que j'en ai. Enfin, il y a quelques questions dessus. Et voilà, il y a des trucs, il y a pas mal. Je pense qu'il vaut mieux plutôt s'attacher aux formules que ce genre de trucs, parce que sinon, on s'en sort pas. Comment nomme-t-on les trois électrodes d'un transistor à effet de champ FET ? Donc une base, un émetteur, un collecteur, une anode, une cathode, une gâchette, un émetteur et deux bases, un drain, une porte et une source. C'est le dernier. Hein, le premier, ça, c'est un transistor bipolaire. Le deuxième, c'est donc un triac ou un thyristor. Émetteur à deux bases, c'est un transistor unijonction. Et donc, drain, porte et source, c'est... qui ne se gère pas dans le bon sens, enfin, j'aurais dit drain, source et porte, mais enfin bon, voilà. Et nommer les électrodes d'un transistor unijonction, donc c'est les mêmes réponses, évidemment, c'est l'émetteur et de base. Voilà, aucune question sur les tubes, heureusement. Et bien, on en arrive au montage de la soirée. Alors, je fais un peu de ménage. Je vous montre déjà ce que je vais faire. J'ai trouvé dans ma boîte à bricolage un transistor avec une référence inconnue. Tout au moins, je tape sur Internet ce qui a marqué dessus et ça me renvoie, je sais pas quoi, mais sur un truc qui n'a strictement rien à voir. Je crois que c'est une bagnole ou un truc comme ça, donc c'est sûrement pas ça. Et donc, j'essaye de trouver les caractéristiques de mon transistor, et ce qui va m'intéresser, c'est notamment son gain. Alors, ça va pas trop me donner le gain à la fréquence, enfin, si j'augmente la fréquence, donc si je suis en HF, ça va pas trop me donner le gain, mais c'est pas grave, j'aurai au moins une idée du gain de mon système. Et puis d'autre part, j'ai mon petit testeur de composants avec lequel je vais pouvoir vérifier si je ne suis pas trop mauvais. Je vais vous montrer tout ça. Je suis en train de monter toute mon installation. Voilà, alors, mon schéma c'est ça, donc ça c'est mon transistor à tester. Ici, donc c'est ma pile de 9 volts, hein, vous la reconnaissez. Ici, j'ai mis une résistance de 8,2 kΩ. Pourquoi 8,2? Parce que ce que je vais essayer de faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un courant de 1 mA dans ma base. Comment je fais un courant de 1 mA? J'ai 9 volts. Ici, je sais que j'ai 0,7 volts de chute de tension sur mon transistor, puisque tant qu'à faire, je vais prendre un NPN et silicium. Voilà, donc ici, si je perds ici 0,7 volts, ici j'ai 8,3 volts, et si je fais 8,3 volts divisé par 8,2 kΩ, eh ben ça me donne pas loin de 1. Et coup de chance extraordinaire, ici 8,2 kΩ, c'est une valeur normalisée. Alors là, Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais pouvoir vérifier que j'ai ici 1 mA qui passe dans ma base, parce que ici je n'aurais pas relié ici mon collecteur, et une fois que je relie mon collecteur, eh bien je vais avoir l'ensemble courant base plus courant collecteur, qui va arriver du coup dans mon émetteur, et donc à partir de là je vais en pouvoir définir quel est la valeur de du gain de mon transistor. On va passer à la réalisation. Alors, je sens que la mise au point et les crânes, du coup, bah voilà. Alors, hop. Voilà, je ne bouge plus. Alors, mon transistor, il est là, vous l'avez vu. Ici, donc ici, ça c'est pour me relier ici l'émetteur, au moins finalement. Le collecteur, il va être là, il est relié au plus. Et ici, sur la base, j'ai ma petite résistance qui fait 8,2 kΩ. Ok, j'ai ma petite pile qui est là, ma pile, je mets le plus sur le plus. Voilà. Ici, je mets en route mon voltmètre. Et je mets, alors premièrement, je ne mets pas ici le collecteur en route. Je vérifie que j'ai bien 1 mA, j'ai un tout petit peu plus. Alors je pense que c'est dû à ce que ma pile, elle est à peu près neuve et donc elle fait plus que 9 volts. Donc voilà, mais j'ai un tout petit peu plus que 1 mA, donc je suis bon. Et là maintenant, tout simplement, en mesurant l'intensité, puisque j'ai 1 mA, c'est facile à diviser par 1, ça je sais faire, j'ai pas besoin de sortir ma calculette. Donc je rajoute ici le courant collecteur, hein, puisque je fais mon contact, et là maintenant j'ai combien? J'ai 55 d'ailleurs, 56. Alors, remarquez que ça augmente. Alors, pourquoi que ça augmente? Je suis un peu embêté parce que du coup ça fait que d'augmenter. Pourquoi ça augmente? Eh bien tout simplement parce que mon transistor il commence à chauffer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il commence à chauffer parce qu'il y a de l'intensité qui passe dedans. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, plus le transistor chauffe, plus le gain augmente. Donc là, il est en train d'augmenter tout doucement. Et puis à un moment, ça va se stabiliser parce qu'il sera monté en température. Et donc, il ne bougera plus. C'est pour ça que dans les anciennes réglementations, on vous disait toujours de mesurer finalement la variation de fréquence au bout de 30 minutes de chauffe. Parce qu'au bout de 30 minutes de chauffe, on se dit que tout le monde est à peu près à température de fonctionnement, et donc après, ça ne varie plus. Hein, donc, mais ça, c'était dans l'ancien temps. Hein. On est bien d'accord. Donc là, vous voyez, ça ne bouge plus. Là, 56, ça va peut-être monter à 57, mais encore, c'est même pas sûr. Mais vous voyez, on avait commencé à 53. Non, ça ne bouge plus. Donc voilà, donc 56, je divise par 1, donc 56, toujours, hein, et moins 1, puisque j'ai 1 milliampère, qui passe par ma base, et donc le gain de mon transistor, là, est de 55, finalement. Alors, je retire 1, le gain qui, enfin l'intensité qui passe dans mon dans ma base. Voilà. Je pense que c'est clair. Voilà, ça bouge plus. On va arrêter la démo là. Et je vais vous remontrer maintenant mon petit testeur de composants. Donc je retire ça. Je garde la pile pour le faire marcher, mon testeur de composants. Ça, le testeur de composants, le voici, le voilà. Mon joli testeur de composants, je mets la pile en fonction. Hop. Mon transistor. Alors mon transistor, c'est un peu compliqué parce que du coup, il est un peu chaud. Hein. Quand je le prends, là, il est... Alors, je me suis pas brûlé, faut pas exagérer. Mais j'ai senti la chaleur. Donc il a commencé à chauffer. Et c'est normal, hein, puisque j'ai quand même 50 mA sur 9 volts. Hein, puisque mon transistor, on verra la semaine prochaine qu'il est obligé de chuter la tension finalement, de chuter les 9 volts. Donc là, je mets le contact, j'espère que ça va être bon. Voilà, donc mon testeur de composants me dit que c'est un NPN avec émetteur base collecteur, selon donc 1, 2, 3, je l'ai mis dans le bon sens. Là, le gain 35, moi je trouvais 50, donc je ne sais pas. Et la tension 1,01, ça me semble. Donc UF, donc c'est la tension base collecteur. Qui me semble très faible. Je vais le relancer parce que Tout à l'heure, de mémoire, il était à 730 millivolts. Donc si ça se trouve, mon testeur, là, j'ai mal fait le test. Voilà, 791 millivolts, ça me va mieux. Et le gain est toujours de 35, qui me semble faible, mais voilà. Mais encore une fois, cet instrument ne me donne pas à quelle fréquence, quelle est la fréquence de coupure de mon transistor. Voilà. Je reviens sur mon PDF. Hop. Allez, je vais passer après. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.